Première Déborah, chapitre 5, partie 4. Nous sommes le 22e jour du mois. Chers amis, Hashem Alechem Tihyu, Leorechem Vishenim Nehemi, Mezenu Beshem, Adonai, Ose, Shamaim Varet. Réveillit. Quatrièmement, la tête c'est la Kalanim, porter secours aux nécessiteux. Mais Dogma, Yesod du Malchut. Action comparable à souder le Yesod, la Sphira, du fondement, Yosef Hatzadik, avec David Ameler, avec la royauté. La Tzedaka relie le pauvre, qui est symbolisé par la royauté, qui n'a rien, qui ne possède rien d'elle-même, à son bienfaiteur, le Yesod, qui lui déverse les flux de vie. Vea Tzedaka roya alehem, perchou batikonim, la Tzedaka qui leur est adéquate, est définie dans les tikonim, de la manière suivante, les Kayem, Tzedaka, comment on écrit Tzedaka? Tzadik, Dalet, Kouf, He. Alors, nous dit le Zohar, les Tikonim, il nous dit, c'est le Tzadé correspond aux 90 Amen que l'on doit répondre tous les jours. Le Dalet, c'est les 4 Kedoshot que nous répondons dans la journée. Nous disons, 3 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh dans Shachit, une fois dans le Yotzer, une fois dans la Hamida, une fois dans Ovalet Zion. Et une quatrième fois, nous la disons dans Nagdishar de Mincha. Et le Kof, c'est les 100 bénédictions quotidiennes que Chazal ont instituées. Et le He, c'est les 5 livres de la Torah. Qu'ainsi explique le Zohar dans les Tikkunim, Tikkun Yudhet. בכל יום, ולעוד, ועוד, כל אחד כפי כוחו ימשיך צדקה מתפארת לעניים הללו. Et chacun, selon ses capacités, ses possibilités, devra influer la tzedaka du tiferet de Yaakov, Yosef, en direction de ces pauvres-là. Et il leur présentera l'églanage de toutes les sphirotes. Ici, il fait allusion à la mitzvah de glaner. Donc, c'est ce qui a marqué. Miasmialem, leket, miasfirot kulam. Leket, c'est le glanage. Ainsi que nous l'avons vu dans route. Shicha, c'est l'oubli des gerbes. Misod, a omer a elyon. Sheibina, le tas de gerbes oubliés, lâché. Shicha. Selon le secret du Homer, le Homer suprême d'en haut, qui est la Bina, ou bien la Péa, le coin du champ, abandonné aux pauvres. Mais Bhinat Malchut Atzma, le coin du champ, c'est le Malchut lui-même. La Péa abandonnée aux pauvres, du Karatet du Malchut lui-même, qui est l'extrémité de toutes les autres sphirotes sur lesquelles il est dit. Et tu abandonneras aux pauvres et à l'étranger. Les anis, la guerre, ta azovotam. Shafilo atiferet. Guerre, les matab et malchut. Parce que même le tiferet, quand il descend en bas dans le malchut, il est lui-même considéré comme étant un étranger. Puis il continue. Et il dit, les anim, la guerre d'Arzovotam, Shafilo Atiferet, guerre les matabé malchut, et tserich la tête, l'homme, mais elo atikonim. Et il faut donner aux pauvres, aux malchut, tous ces tikonim que nous avons mentionnés. Et de même, maaser sheni, le deuxième maaser, que nous devons monter une fois tous les 3 ans. Maaser sheni, c'est, le deuxième maaser que nous montons la première année, la deuxième année, la quatrième et la cinquième. Nous rachetons le Maaser Sheni, le montons, nous le consommons à Jérusalem. Les Alot à Malchut, Maaser, et la Yesod, Anikra Ani. Le Yesod, il n'a rien, il est appelé Ani, il va transmettre tout ce qu'il possède au Malchut. Donc on lui donne 1/10. C'est allusion au Malchut qui est la 10e Sphira. Veim, il cacherena, betiferet, itel, mina Maaser et la guerre, ve kamatikoni, michlanim basé. Et quand il donnera cette action-là aux pauvres. Alors, combien des tikkunim seront réaliseront de cette manière-là? Nous allons expliquer un petit peu tout ceci. Celui qui possède la richesse étend le bras pour secourir le malheureux, en lui donnant ne serait-ce qu'une pièce, relie par son acte les quatre lettres du nom et le reforme. Il rétablit la Shekhina. C'est ainsi que explique Arav Ahari Zichrono Livracha. Il tient la pièce a une forme de yod. Elle est saisie par les cinq doigts de la main qui sont le hé du nom. Il tend le bras, ça forme un vav. Et il donne la pièce dans la main du pauvre qui est le hé. Donc en vérité, vous remarquez que en vérité, il devrait donner la pièce, le vav, le hé et le vav, il serait à l'envers, c'est par l'épaule qu'il devrait donner. Mais en vérité, il lit le yud qui est vav et il donne le yud directement au hé. La main tendue du pauvre vers la pièce est la dernière lettre du nom qui se ressoude et se reconstruit. Le pauvre est le malchout qui ne possède rien d'elle-même, uniquement ce que les sphirotes du haut lui procurent. Par cet acte s'établit une relation entre les extrêmes qui sont opposés de par leur nature. Le riche et le pauvre vivent dans des mondes différents, dans des sphères différentes. Ils évoluent dans deux mondes totalement opposés et différents. Comment les faire se rencontrer? Comment rétablir l'injustice, entre guillemets, l'indifférence, le dédain que subit cet être insignifiant dont personne ne se préoccupe? Le riche, en portant son regard sur le pauvre, en lui portant de l'intérêt, rétablit une relation d'égalité entre eux. C'est le shalom. La relation devient alors normale. C'est pour cela que la tzedaka est qualifiée de shalom. Il est marqué dans le pasuk, ve'avetia tzedaka, ve'yamasia tzedaka shalom. C'est la perfection, car cet acte passe par le conduit du yesod. Donc nous allons voir à présent, grand est celui, donc le Zohar réalise tzedaka, c'est répond déjà aux 90 amen. Alors on nous dit, chachamim, gadola on est amen, yoter me'amvarech. Grand est celui qui répond amen, bien plus que celui qui récite la bénédiction. La Gemara dans Brachot, même Zayin Amud Aleph. En effet, le nom de Dieu, nous l'avons déjà dit, c'est Kriyut Kebavke. Il est prononcé Aleph Dalet Nunyut. Nous n'avons pas le droit de prononcer le nom tel qu'il est écrit. Parce que le verset dit, Zéchemi Vezézichri Le Dordor. Voici mon nom et voici comment il doit être prononcé. Donc on n'a pas le droit de le prononcer tel qu'il est écrit. Le nom est écrit sous une forme et le rappel, la mention du nom est sous une autre forme. Donc on n'a pas le droit. La Gemara en Kiddushin nous apprend cela de la Dafarin Aleph. Le nom de quatre lettres tel qu'il est écrit appartient à la réalité, en réalité au monde de la spiritualité totale. Là où sa gloire se déclare totalement. Dans le monde ici-bas, le nom est voilé, habillé, caché dans la nature de la création. Le nom tel qu'il est prononcé signifie maître du monde. Adonai. Adon, maître. C'est ainsi que va le dévoiler Abraham, en répondant amen, après une bénédiction. L'intention est de faire l'harmonie entre l'écriture et la prononciation. Le nom écrit de valeur numérique 26, celui que l'on prononce Ado, plus loin Nai, à valeur numérique 65, quand on associe les deux, on dit amen, alors en valeur numérique de 91. C'est ce que nous voyons souvent dans le Zohar. Il dit, celui qui arrive à faire la kavana de la bracha et unir le nom, faire l'unicité du nom, c'est alors il y a la kavana de faire Yud Aleph et Dalet, Vav Nun et Yud. Les quatre saintetés Kedushot sont récitées dans la prière correspondent au chant des anges, qui se réunissent en légion pour ensemble élever la louange du Seigneur. Ils sont à trois niveaux. Les anges sont de trois niveaux. Ils correspondent aux trois mondes. Beria, Yetzira et Asiya. Les séraphim sont dans le monde de la Beria, la création. Hayot HaKodesh, les êtres saints, au monde de la Yetzira, la transformation. Et les Ophanim, assimilés aux roues du char divin, sont dans le monde de l'action. Les anges sont des êtres figés. Ils ne peuvent changer de niveau et de monde. Ils sont debout, comme il est dit dans le verset. Venatati lechame alchim benarondim aele. Je te ferai avancer entre ceux-là qui sont debout. Ceux qui sont debout, figés, ils ne peuvent pas avancer, ce sont les anges. Cependant, quand ils s'élèvent, leurs louanges, les ophanim élèvent leurs louanges, eux-mêmes ils s'élèvent au niveau des hayot. Et ensemble, ils montent jusqu'au niveau des séraphim. Et là, ensemble, la louange est récitée à l'unisson. Et là, de par la puissance qui émane de la présence de la gloire divine, ils se décomposent. Leur corps devient liquide. Ils disent avec crainte et le tremblement, l'effroi, la grandeur du Tout-Puissant. Le sens de cette proclamation est l'assemblage de tout ce qui compose la création, qui à tous les niveaux proclame la gloire du Seigneur Tout-Puissant, Roi du monde. Il n'y a rien d'autre de réel en ce monde. Tout se fond en lui. Donc c'est ça la Kdusha. Les 100 bénédictions, nous expliquons maintenant le Kouf. Kouf, ces 100 bénédictions que Moshe ou David ont instituées, sont instituées afin de tirer tous les flux vers ce monde. La Gemara, elle dit que Ben Hachem, Shuel, Meimar, Kim, Lira, Oto, qu'est-ce que Dieu y réclame de toi? Que tu le craignes. Alors, il y a plusieurs endroits, Tosafot, Rachid, dans plusieurs endroits, ils disent, ne dis pas, ma, dis Mea. Mea, ça fait 100. Et quand Tosafot disent, le même, il y a 100 lettres dans ce pasouk, ils font allusion à 100. Maintenant, regardons que David Améler aussi, il a institué cela. À l'époque de David Améler, la vie de l'homme a commencé à se réduire. Et David, à l'occasion de l'épidémie, la fameuse épidémie qui a eu lieu, il a demandé, recherché, il a voulu comprendre pourquoi les gens mouraient sans jeûne, mouraient tous les jours. On lui a dévoilé qu'il fallait instituer Mea Brachot. De telle sorte que les Brachot qui ont été institués, c'est pas dire sans bénédiction n'importe lesquelles. Le Rambam les cite et il les établit. C'est dans la régularité du système. C'est des rayons du juif, il y a 100 bénédictions. Alors il est quand ceux du matin, puis ceux de tfilin et de tzitzit, puis ceux de la tfila, puis ceux de qu'on a l'habitude de faire, berkat amazon, de l'etila, etc. C'est le c'est des rayons. Sans pas dire 100 bénédictions n'importe lesquelles. C'est la régularité de 100 brachot qui sont fixés de manière tout le temps les mêmes. C'est pour de faire en sorte que ces brachot rallongent la vie. Elles sont la source de bénédiction, la source de vie qui se prolonge. Parce que celle, à l'époque de David, a commencé à se réduire. Donc, quand on dit le mot Baruch, quelle est la kavana, nous dit Nefesh HaChaim? C'est rallonger, augmenter, amplifier. Donc, le mot Baruch, celui qui veut savoir le pshat, c'est que dans le ciel, il y a un réservoir extraordinaire de vie et d'abondance qui est fermé, dont le robinet est ouvert un petit peu. Donc, il coule un petit flux, un petit jet. Et quand je dis Baruch, la kavana, c'est d'ouvrir ce robinet, d'ouvrir les vins afin que les flux se répandent en bas avec force, amplitude, puissance et intensité multipliée et croissante. C'est le sens de la bracha. Donc comment doit-on dire les brachot? Prenons garde à la manière que nous avons de réciter chacune des brachot, en séparant correctement les mots Baruch, Atta, Hachem, en ayant la kavana. Parce que la bracha, c'est la liaison de l'homme à la relation qu'il a avec la source de vie. Les 5 livres de la Torah écrites contiennent toutes les lumières qui sont les sources de l'existence et de la pérennité de ce monde. Ainsi parle l'Éternel, sans mon alliance, Ko Amar Hashem, Im Lo Beriti, Hokol Yom Balay, La Hokol Shamayim Vaaretz, Lo Samti. S'il n'y avait pas mon alliance, le jour et la nuit, il n'y a plus d'existence au ciel et la terre. C'est-à-dire, si l'étude de la Torah cesse un instant sur terre, les lois qui régissent, qui établissent la stabilité de la création s'annulent. Et Haz Veshalom, le monde retournerait au néant. L'étude de la Torah procure au monde, ce du haut comme ce du bas, leur harmonie et fait jaillir les flux qui les traversent pour se déverser en ce monde ici-bas. Toutes ces actions citées se doivent d'être accomplies chaque jour, car les jours sont d'une qualité différente. Les énergies qui y sont diffusées sont-elles aussi de qualité différente? Les jours comme les semaines et les mois, ainsi que les années qui composent le temps, correspondent aux énergies des sphirotes, qui sont divisées pour être dispensées de manière progressive. La longueur du temps consiste à la diffusion des lumières initiales, ce que nous appelons le Or Haganouz, la première lumière créée lors de la création, qui a été ensuite enfouie dans le soleil. Cette lumière ne peut apparaître d'un coup. Elle ne serait pas supportable aux créatures par l'immensité de sa puissance. Le travail sacré consiste d'une part à les faire apparaître et d'autre part à les canaliser. Vers quoi? Vers le Kdusha et le bien, afin de les mener à réparation. Ceci est le sens de la répétition continuelle des mêmes prières, des mêmes mitzvot à l'identique. Le rav ici fait correspondre aux sphirotes les parts de la récolte qui doivent être données aux pauvres. Dans ce passage, il est mentionné trois mitzvot concernant la moisson que le moissonneur doit abandonner aux pauvres. Comme il est dit dans le pasuk, Uvkutzrechem et ketzir arzechem, quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, lo techale peasatra liksor, tu ne couperas pas entièrement jusqu'au bout de ton champ. Et la glanure de ta moisson, tu ne ramasseras point. Si la faux du moissonneur glisse sur un ou deux épis, il ne peut les faucher à nouveau. Il doit les abandonner pour les pauvres. Cela s'appelle les quêtes. Le moissonneur doit aussi laisser au coin de son champ une partie de sa récolte qui reste sur pied, afin que les pauvres puissent la couper et se l'approprier. C'est le PA. Après, il est dit, Kitiksor Ketsicha Besadecha, quand tu moissonneras ton champ, Bisharasa Omer Basade, tu oublieras une gerbe dans ton champ. L'autre achouve le carto, tu n'as pas le droit de revenir la prendre. Mais elle restera pour l'étranger. La guerre, la yadon vela almanaïe, les man yivarchecha shemecha uchoma asadecha. Tu l'abandonneras à l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin que Hachem te bénisse dans toute l'action de tes mains. Après la moisson, on ramasse les épis, on l'assemble en javel. Javel, c'est des gerbes. Puis on les lie en gerbes. Et on en fait des meules, que l'on ramasse en passant dans le champ avec une charrette. S'il arrive qu'en avançant, on s'aperçoit une meule oubliée, il est interdit de faire marche arrière pour la récupérer. Elle sera abandonnée au poste. Cette mitzvah est appelée shicha. C'est la seule mitzvah de la Torah qu'on ne peut accomplir qu'uniquement en l'oubliant. Si on laisse exprès la chose là, c'est pas une mitzvah. Ce sera la zaka, tout ce qu'on veut, mais la mitzvah de Shicha ne sera pas accomplie. La quatrième mitzvah est la mitzvah du Maaserani, sur les récoltes de céréales, sur celle des oliviers et de la vigne. La Torah nous commande d'effectuer les prélèvements suivants. La Trouma, 1/50, on donne au Kohen. Mais après, on prélève Maaser Rishon, qu'on donne au Lévi 10%. Trouma de Maaser, le Lévi de ce qu'il a reçu, il donnera 10% au Kohen. Maaser Sheni. Après, on prélève un Maaser, 10%, qui devait être consommé à Jérusalem, lors des fêtes de pèlerinage. On a la possibilité de transférer la sainteté des fruits sur des pièces. On ajoute une valeur de 20%, et on utilisait cet argent-là pour faire les corbanotes et pour manger au temple. Une fois tous les 3 ans, ce Maaser Sheni devenait Maaser Ani. Il était donné aux pauvres la 3e et la 6e année. Le champ fait référence au malchut, comme nous l'avons vu plus haut. La meule de germe, oubliée, fait référence à la bina. Cette meule est appelée Omer, comme le décompte des 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Alors on compte Al Sefirat à Omer. C'est quoi ce Omer-là? Comment de Pessah je vais arriver à Shavuot? Shavuot, c'est le Omer, c'est le compte qui me permet d'arriver à Bina. Les 50 portes de la connaissance, c'est la matrice d'où émane la vie, d'où émane la Torah. Ces jours, comme tous des épis rassemblés, puis liés en javel, donc et plus liés en gerbe, pour obtenir une meule. Donc on compte les jours, on compte les semaines, et après chaque semaine on lit les semaines et ça devient et ça devient un homère. La PA qui est l'extrémité du champ fait elle aussi référence au Malchut, qui est l'extrémité de toutes les sphirotes. Elle en est la dernière. Le pauvre et l'étranger font référence au Yesod, qui est qualifié ici de pauvre, car il ne possède pas d'énergie propre. Il récupère les énergies du haut, comme nous l'avons dit précédemment. Un homme qui possède des champs est lui-même considéré comme un pauvre quand il est en déplacement. Il a le droit alors de servir des parts qui reviennent au peuple. N'étant pas à même de leur donner, il est comme un pauvre. Le Tiferet lui-même est comme un étranger qui s'installe en bas dans le Malchut. La dîme fait allusion à la dixième sphira, le Malchut. C'est elle qui élève toutes les actions positives des hommes, les mitzvot et l'étude de la Torah vers les hauteurs. Ce sont les Mayin Nokvim, les eaux féminines, le réveil d'en bas, et Taruta Deltata. Ces flux-là, des actions des hommes, montent, s'élèvent, produisent une odeur agréable devant le Seigneur Tout-Puissant, et lui donnent satisfaction. Le Malchut monte alors au niveau du Yesod, et par son truchement qui s'élève les mitzvot. C'est alors que le Malchut est qualifié de Maaser Ani. Quand la montée se poursuit et atteint le Tiferet, c'est la part de l'étranger. Le Homer est la part de la Bina, comme nous l'avons déjà précisé. La part qui revient au Lévi arrive au niveau de la sagesse de la Chochma. Puis le Lévi donne au Kohen la Trouma de Maaser qui atteint le Keter. Donc nous avons vu à travers toutes ces mitzvot-là comment tout le système des Sphirot est lié. De part donnée aux pauvres, du bas vers le haut, et ça monte pour atteindre le Keter. Donc qu'avons-nous fait? On a pris la Shekhina qui était tout en bas et nous avons lié jusqu'au Keter. C'est le sens essentiel des mitzvot qui sont mentionnés ici, et c'est le sens essentiel de faire Hesed avec l'autre, remonter la Shekhina et la rétablir jusqu'au niveau de la couronne.